comprendre.
T'en as-tu un, toi, Mario, un surnom comme ça?
Benoît Dutrisac.
Mario Keller Dumont.
Tu le caricatures, mais c'est quand même ça, Benoît.
Mario Dumont.
Sérieux, ça, là, ça n'a pas de saint bon sens.
La rencontre.
Et là, ouais, hey, t'as-tu vu sa question?
Je fonctionnaire dans le bureau.
Qui va décider comment ça va se passer?
À cette fois-ci, j'ai un doute.
La rencontre Dutrisac Dumont.
Avec Mario Dumont, ce matin, on va parler de cette bombe politique qu'on a entendue, apprise hier par Global News. Le libéral Han Dung, selon deux sources qui proviennent du milieu de renseignement, aurait donné des conseils à un diplomate chinois en 2021. Le haut consul chinois à Toronto, et son conseil aurait été retarder la libération des deux Michael, Michael Kovrig et Michael Spavor, et par la suite, la Chine aurait décidé d'aller de l'avant avec des accusations dans les deux cas. Lui, hier, a quitté son poste à l'intérieur du caucus, dément toute ingérence de la sorte, dit non, 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 au contraire, j'ai plaidé pour leur libération. Mario, c'est une bombe politique, là.
Oui. D'autant plus que ça arrive au moment où on venait de laisser parler ce député. D'abord, juste pour situer les gens, c'est celui qui est au cœur des avertissements
en 2019.
Les avertissements, en fait, tout est dans tout. Là. Les avertissements qui font qu'on veut entendre Mme Telford aujourd'hui, puis que pendant plusieurs semaines ou 10 jours, on a voulu pousser Mme Telford à témoigner, la directrice de cabinet de Justin Trudeau. Finalement, Justin Trudeau a cédé avant hier. Mais c'est à ce sujet-là.
Parce qu'on craignait que ce soit, il a été influencé, qu'il a eu de l'argent et qu'il devienne un collaborateur de la Chine.
C'est ce que Global avait sorti, que ce député avait été avait été aidé, en fait, même pas pour devenir député, avant même pour ça, pour devenir candidat libéral. Mais certains diront, c'est le genre de comté où devenir candidat libéral. C'est un peu comme dans l'Ouest de Montréal pour le Parti libéral du Québec. La vraie élection, c'est pas l'élection. La vraie élection, c'est la convention du Parti libéral. Si tu gagnes la convention que tu viens le candidat libéral, devenir député ensuite, là, contre les adversaires, c'est une formalité. Donc, dans ce cas-là, il avait été à gagner la convention, donc à devenir le candidat officiel de Justin Trudeau, semble-t-il, selon les dires ou selon les enquêtes qui auraient été transmises aux médias, aurait été aidé par le consulat chinois financièrement, des autobus de gens, etc., des organisateurs, donc aurait été supporté. Lui, on l'avait jamais laissé parler, hein, le député Dong, on n'avait jamais laissé donner d'entrevue, et c'est cette semaine que pour la première fois, l'entourage de M. Trudeau l'a laissé parler. Il a dit, il a nié tout ça. Il a dit que lui était un simple député comme tous les autres, qui avait fait ses affaires, qui avait fait son travail, qui avait pas été aidé par personne du consulat chinois. Donc, a nié en bloc là, toutes les allégations qui circulaient. Et là, quoi, moins de 48 heures après, le Global sort cette nouvelle de plus. Je fais une parenthèse pour dire, j'ai lu et relu, là, les éléments du reportage. À un moment donné, tu te demandes, comment ils peuvent savoir ça?
Ben, c'est ça, j'allais te demander, parce que c'est comme une discussion privée.
Une discussion entre le député et le consul. Et on est obligé de penser à un certain point que le député, parce que là, ça ressemble à de l'écoute électronique, hein?
Ben, soit ça, ou soit une bonne source au sein du consulat chinois, là.
Ouais. Puis c'est de l'écoute électronique, je suis convaincu que le SCRS, les services de renseignement canadiens, n'écouteraient pas des diplomates étrangers. Ça, c'est impensable, c'est trop grave en termes de, ça prend en termes d'incidents diplomatiques avec la Chine, c'est sûr qu'ils prendraient jamais ce risque-là. Donc, ça veut dire qu'il y avait un député de la Chambre des communes sous écoute, là. C'est-à-dire que quand ils ont averti le bureau de M. Trudeau, en tout cas, il semble y avoir une probabilité qu'un élu, on a été assez suspecté de liens douteux avec la Chine.
Puis qu'ils l'ont pas lâché depuis 2019, là.
C'est quand même gros, là. Non, mais pour vrai qu'un élu soit sous écoute des services de renseignement, c'est pas banal. Je suppose que du côté du SCRS, pour que les patrons, pour que les plus hautes autorités autorisent ça, faut qu'on ait quand même des inquiétudes ou des doutes sérieux. Ou soit qu'on n'est pas sérieux pantoute, là, mais je sais pas. Faut qu'on ait des doutes quand même sérieux. Donc, ça vient, tu sais, c'est comme si ça vient complètement changer le témoignage que les libéraux voulaient pas, celui de Mme Telford, mais là, devient beaucoup plus sensible parce que le député en question qui était pour lequel c'est M. Trudeau avait été averti, ou le bureau de M. Trudeau avait été averti, attention, là, vous avez un candidat, il vient de gagner l'investiture, il l'a gagné, selon nos renseignements, il l'a gagné avec l'aide du consulat chinois, c'est peut-être un député qui est infiltré là, par Pékin, ou qui était une taupe de... C'est ça les avertissements que M. Trudeau avait eu, que sa directrice de cabinet avait eu, on peut penser qu'elle les avait transmises au boss. Mais là, ça prend une autre tournure. Et pour les libéraux, la catastrophe de faire démissionner M. Dong en soirée hier, c'est que, dans le fond, ils l'ont gardé tout ce temps-là. Ils l'ont gardé de 2019, ils l'ont gardé comme candidat. Il a été élu, ils l'ont gardé comme député. En 2021, semble-t-il qu'il y avait toujours des soupçons. On l'a gardé à nouveau comme candidat.
Puis il est resté dans le caucus, comme député. Il est resté dans le groupe de députés.
Il a siégé à tous les caucus, ouais, absolument.
Il y a eu de l'info privilégiée.
Tout le temps. On est rendu en 2023, il a été dans le caucus. Et là, finalement, hier, il s'en retire. Toujours en niant les allégations, mais tu te dis, OK, c'est pas banal comme allégation. Il aurait encouragé le consulat de Chine à prolonger la... Puis, as-tu vu le pourquoi? Pourquoi garder deux Michael plus longtemps dans des prisons, dans des trous à rats? Parce que les sortir trop vite, ça pourrait donner raison aux conservateurs qui prônaient la ligne dure. Fait que pour pas aider, avec là, tu te dis, il y a beaucoup de choses là-dedans.
Mais on dirait qu'il y a une couche que c'est tellement gros que mon cerveau a comme la difficulté à y croire.
On a peine à y croire, là. Mais parce que si tout ça est vrai, tu dis, OK, ça veut dire que quand M. Dong, quand le député Dong jase avec le consul de la Chine, il présume que la Chine veut un gouvernement libéral puis veut pas les conservateurs parce que on serait prêt à garder des prisonniers de peur d'aider les conservateurs. Bien que, je comprends moyennement la chaîne de raisonnement qui nous amène là, mais enfin, ça aiderait les conservateurs. Donc, il présume que la Chine veut pas aider les conservateurs, que la Chine veut aider les libéraux. Et donc, au point de maintenir des prisonniers dans un trou. Enfin, ça va être à suivre. Je ferai une remarque supplémentaire. C'est dans l'entourage de M. Trudeau, ils doivent être vraiment pas contents parce que la journée d'aujourd'hui, la veille de l'arrivée, ben M. Biden arrive ce soir. J'ai l'impression qu'on c'est le genre de moment où on voudrait que le premier ministre soit concentré le plus possible sur la visite de Joe Biden, la préparation des dossiers, la préparation finale des dossiers avec les Américains, la préparation des réunions de demain. Et j'ai l'impression que pour une xème journée consécutive, le dossier de l'ingérence chinoise va venir occuper l'agenda, l'horaire et l'esprit du premier ministre.
Ouais, ça va sûrement faire partie des discussions avec Joe Biden aussi.
Aussi, oui, absolument, tout à fait.
Parce que ça va être une grosse visite, là.
Oui, c'est une énorme visite. D'abord, j'ai pas tout l'historique des visites, mais d'après moi, ça doit faire quand même assez longtemps qu'il n'y a pas eu une période aussi longue sans visite officielle d'un président américain. Et là, je vais être clair, là, pour moi, la venue de Donald Trump dans Charlevoix, je ne compte pas
mais
ça.
Mais c'est pas une vraie visite. T'sais, il est venu pour un sommet.
C'est ça. Il y avait un sommet du G7. Le Canada était le pays hôte. Donc, n'importe quel resort, n'importe quel hôtel prestigieux qui aurait accueilli le sommet du G7, dans n'importe quel pays du G7, Donald Trump serait débarqué sur les terrains de l'hôtel, serait reparti, ce qu'il a fait exactement dans Charlevoix. Là. Pas eu de rencontre particulière au Canada, il n'y a pas eu de politesse particulière au Canada. Il est débarqué, il n'est même pas resté au sommet jusqu'à la fin, là, il était parti en bougonnant aux trois quarts du sommet, il avait pris son avion, puis bye. Fait que moi, je considère pas que ça, c'était une visite officielle au Canada. Donc, ça fait... Là, on remonte à la visite du président Obama, qui était au tout début là, du mandat de M. Trudeau. Ça devient là, la dernière visite d'un président américain au Canada. Donc, ça fait une longue période qu'il n'y en a pas eu. M. Biden connaît quand même bien le Canada. Là. Ça faut quand même le souligner. C'est quelqu'un qui connaît le pays plus que la moyenne des politiciens américains. Là, certains qui savent
qu'il était venu comme vice-président.
Oui. Puis, il connaît le Canada, là. Bon. Ça, parce qu'il y a pas mal de politiciens américains qui savent, sont au courant qu'il y a un pays au nord. Là. C'est quoi son importance puis qu'est-ce qu'ils font là
c'est
exactement?
Un pays socialiste dictatorial.
Ouais, un pays socialiste, il a l'air à faire frette. Là, c'est pas mal ça, le Canada. Là. Mais enfin, donc...
Puis une possible annonce sur le chemin Roxham, là, on s'en parlait hier. On espère juste pas que ce soit un comité de travail pour évaluer les commissions puis d'autres comités. Puis...
Ouais, ben il y a pas mal de choses quand même là, de sur l'économie, la sécurité, le chemin Roxham, la frontière, pas mal de la guerre, l'Ukraine, etc. Pas mal de choses sur la planche à dessin. Est-ce qu'il va sortir quelque chose de concret sur le chemin Roxham? Je pense que la question est vraiment entière. Là. On n'a pas. Il y a un début de réponse dans le sens que M. Trudeau hier, sourire en coin, a dit laissez entendre qu'on pourrait être prêt à faire une annonce. Mais comme tu le disais, moi j'exclus pas du tout que ce qu'on appelle une annonce. Est-ce que c'est une annonce? Mettons qu'on annonce qu'un comité de travail avec des gens des deux pays vont se pencher là-dessus au cours de la prochaine année. Est-ce que ça c'est une annonce? Ou c'est une mesure dilatoire pour gagner une autre année?
C'est comme nommer un rapporteur spécial.
Ben, je veux dire, la question a été étudiée de long à large depuis longtemps. Là. Fait que de dire, peut-être qu'un comité de travail formel va avoir un mandat plus précis d'arriver à des conclusions l'année prochaine. Mais tu sais, moi, je vais quand même, si c'est ça, je vais quand même recevoir ça comme une mesure pour gagner une autre année. Là. Une annonce pour reporter une éventuelle vraie décision. Puis là, ben, durant l'année, tu vois. Puis est-ce qu'on pourrait réussir à réduire un peu le flot, qui en entre un peu moins, etc.
Mais tu vois, à Ottawa, ce qu'on entendait, c'était possiblement qu'il y aurait une entente pour dire on prend des migrants à la frontière américaine. Mais en contrepartie, on refoule ceux au chemin Roxham. Ça semble être ce qui est dans l'air en ce moment. Là.
Mais si on a une entente qui a du bon sens, ça va être, donnons le crédit, ça va être un gros coup pour M. Trudeau. Parce qu'on sait déjà, pour ceux qui critiquent trop sévèrement Justin Trudeau, là, on sait déjà que le premier ministre, que le Canada, en fait, a inscrit le dossier comme prioritaire au point où, et moi, je me réfère à un article du New York Times qui faisait un portrait quand même assez bien documenté de la situation au chemin Roxham. Et dans l'article, le journaliste, il citait pas personne, mais il citait des sources américaines dans l'entourage du président qui disait que cette histoire de chemin Roxham venait compliquer, là. T'sais, c'était une complication dans le dossier, dans la visite prochaine du président Biden au Canada. Fait que tu te dis, OK, si les gens... Lui, le journaliste du New York Times, il est pas dans nos affaires au Canada. Là. Il écrit aux États-Unis, il écrit, oui, c'est un sujet de frontière, mais il écrit aux États-Unis, consulte des sources américaines. Quand il veut savoir ce qu'il se dit à Maison-Blanche, consulte des sources américaines autour de la Maison-Blanche qui lui disent, ouais, on a cette affaire-là, le chemin Roxham, mais et au point que lui, le journaliste, en comprend que ça complique la visite du président Biden. Je suppose que s'il s'en foutait perdument, ouais. On dirait pas que ça complique sa visite. Il n'a pas dit non plus que ça l'empêche de dormir, c'est son dossier, c'est sa priorité numéro un. Mais ça existe. Dans sa visite au Canada, ça veut dire que le Canada a inscrit le dossier comme incontournable, comme devant être discuté, comme quelque chose qu'il faut aborder. Ça ne veut pas dire qu'il va y avoir une conclusion positive entièrement pour le Canada, mais ce sera à voir.
Parlons de la population canadienne. 1 million de plus de personnes l'année dernière.
C'est phénoménal. On dit on est 38 millions au Canada. Tout à coup, on se réveille avec l'année 2022. Ce n'est plus vrai. On est 39 millions, presque 40. La population du Canada, c'est 1 million de plus. Puis, je veux dire, 1 million de plus en Chine, c'est une chose. 1 million de plus au Canada quand t'es 38 millions. C'est essentiellement une augmentation presque 3% de la population d'une année à l'autre.
Plus que l'inflation, on dit ça... là.
Oui, on dit que c'est la plus grosse augmentation de population depuis, c'est quoi, l'année 1957?
Là? 57, oui, où il y avait le baby boom.
Mais où il y avait les réfugiés hongrois, mais il y avait surtout le baby boom. C'était au cœur du baby boom, les plus grosses années de naissance. Quand on parle du baby boom de l'après-guerre, là, les plus grosses années de naissance, on le sent ces années-ci parce que ces travailleurs nombreux prennent leur retraite et génèrent la pénurie de main-d'œuvre. Mais donc, c'est parce que ça soulève, on avait ce plan canadien, on va accueillir 500 000 de nouveaux arrivants par année. Le Canada vise à être 100 millions de population pour 2100, l'espèce de rêve du siècle. Là. Et le Canada plus influent dans le monde parce que beaucoup plus populeux, parce que ouvrant ses portes complètement à l'immigration. Puis on trouvait déjà que c'était beaucoup, qu'il y a 500 000 par année au Canada, c'est énorme. On se demandait déjà... C'est quoi la place du Québec là-dedans? Parce que pour que le Québec... S'il y a 500 000 au Canada, il faudrait que le Québec accueille quoi autour de 120 000 pour garder sa proportion de population. Il faudrait que le Québec accueille 120 000 immigrants par année. Alors que le gouvernement du Québec a fixé le seuil à 50 en disant, en haut de ça, on sera plus capable de faire l'intégration, les cours de français. Mais entre le 50 et le 120, ça veut dire que le Québec n'accueillera pas, ne prendra pas sa part des nouveaux arrivants. Et donc, le poids du Québec dans le Canada va juste diminuer. Là, on est 23% de la population du Canada. En fait, on passe là, en bas des 23 à 22,9. Puis on va diminuer. Puis, les pronostics, c'est que dans quelques décennies, même dans 20-25 ans, le Canada va être plus autour de 18, le Québec, va être plus autour de 18-19% de la population du Canada. Donc, une influence politique, là, très
Est-ce qu'il y a juste le rattrapage de la pandémie?
C'est la question que j'allais poser. Est-ce que le million, c'est un signe des temps? Puis c'est un signe quand ils nous ont fixé un objectif d'un demi-million par année, on n'a rien vu. Ça va être plus et plus vite parce que là, il y a l'immigration permanente, il y a l'immigration temporaire, il y a les réfugiés qui rentrent à pleine porte. Fait qu'on sait plus trop là, qu'est-ce qui est le vrai chiffre. Ou est-ce que c'est ça? Est-ce que l'année de la pandémie, c'est sûr qu'au Québec, par exemple, le plafond, le seuil est à 50 000 par année, mais l'année après la pandémie, on a accueilli, je pense, 72 000 ou quelque chose du genre, parce que l'année d'avant, il y avait comme les avions volaient même pas, fait que l'arrivée des migrants, c'était assez limité, merci. Il y avait pas de transport aérien pour une grande partie de l'année, il y avait personne qui se déplaçait d'un pays à l'autre, on était dans les règles de la COVID. On va voir, mais disons qu'hier, c'est arrivé comme un gros avertissement. Bon, ailleurs au Canada, exemple, je pense qu'à Toronto, les gens, c'est même pas une nouvelle, les gens, c'est immigration 100%, tant qu'on peut, on a des besoins de main-d'œuvre, puis il y a plus, exemple, la ville de Toronto n'est plus canadienne, ne fait plus partie du Canada, c'est une ville mondiale où on se fie que l'anglais va être la langue commune parce que c'est la langue internationale, là, c'est la langue d'Internet, mais je veux dire, sinon... Il n'y a pas d'intégration linguistique. Il n'y a plus de culture. Dans l'esprit de Justin Trudeau, il n'y a plus vraiment de telle chose qu'une culture canadienne.
Ben, c'est le pays de la grande liberté et chacun...
C'est ça. C'est le Canada post-national, donc multiculturel complètement. Mais au Québec, on n'est pas là. Au Québec, on dit non, on est prêt à accueillir de l'immigration. D'ailleurs, on le fait plusieurs dizaines de milliers par année, mais dans le contexte d'une intégration, dans le contexte de la survie du français, donc dans le contexte qu'il faut que la grande majorité puisse apprendre le français, donc quoi, soit de s'inscrire à des cours de francisation. Donc, il y a pas de possibilité pour le Québec. D'ailleurs, il n'y a aucun parti politique, même les partis pro-immigration, les libéraux, le Québec solidaire, les partis très pro-immigration, à la dernière élection au Québec, parlaient de 70 000. Québec solidaire allait jusqu'à 80 000 nouveaux arrivants par année. Mais personne disait, on peut ouvrir les portes, puis on compte plus, là. Je veux dire, tout le monde au Québec reconnaît, même les plus pro gros seuil d'immigration, disent non, il faut l'intégration, il faut des cours de français.
Puis il faut du logement. Trop de sujets.
Mais ça, au Canada, c'est intéressant parce que ça, la question du logement, des soins de santé, elle semble pas se poser. On est en crise de logement partout au Canada. Puis on dit il faut rentrer 1 million de nouveaux arrivants toutes les 2 ans. Puis là, cette année, ça a été 1 million dans l'année, puis il semble plus avoir de limite. Je sais pas c'est quoi la politique de logement qui est liée à tout ça. Il y a un bout, là, sincèrement, il y a un bout qui m'échappe là, dans la politique de M. Trudeau.
Mais du côté, mettons, de l'Ontario, on est plus lousse sur les règles. On permet, par exemple, la construction de mini-maisons dans les cours. On a comme décidé d'accélérer grandement la construction, mais je pense qu'il y a la logique. Je vais essayer d'expliquer. C'est que plus il y a de monde qui arrive, c'est plus il y a de main-d'œuvre. Plus il y a de main-d'œuvre, plus on est capable de construire du logement.
Oui, il y a probablement cette logique-là aussi. C'est vrai que dans le secteur de la construction, on manque de main-d'œuvre. Par contre, c'est-tu Pierre Fortin qui a fait une espèce de démonstration qui disait, oui, mais quand il arrive de nouveaux arrivants, là, c'est une bonne... T'sais, s'ils sont plus jeunes, mais c'est une bonne contribution. Ils vont payer de l'impôt toute leur vie, ils vont aider à payer les retraites, tout ça. Mais ne nous illusionnons pas. C'est-à-dire, une nouvelle famille qui arrive, c'est 1 ou 2 employés de plus, là, sur le marché du travail, mais leurs enfants vont à l'école, leurs enfants vont à la garderie. Fait que quand t'en as 20 familles comme ça, ben là, t'as besoin d'une nouvelle place en garderie, t'as besoin d'une nouvelle éducatrice, t'as besoin d'une nouvelle classe à l'école.
Faut construire une garderie.
C'est ça. T'as besoin d'une nouvelle maison, t'as besoin d'employés de construction. Fait qu'il disait qu'en bout de ligne, ça se balance plus ou moins, là. Tu sais, c'est que les nouveaux arrivants amènent de la main-d'œuvre, mais amènent aussi des besoins de main-d'œuvre. Ils vont devoir se faire soigner, ça prend du monde à l'hôpital. C'est ça, le portrait.
Est-ce qu'on va y arriver? Je pensais ça, la question. Mario, on se parle tantôt.
Bonne journée.
Salut.
Marie.